Reprise ce dimanche soir du festival en ligne à l'initiative de l'Opéra de Dijon, artiste en résistance, artiste en résidence, avec quelqu'un que nous avons déjà vu la semaine passée avec la Capella Mediterranea. Il joue du bandoneon. William Sabatier, c'était la rencontre entre le monde du tango et le monde baroque?
Non, la rencontre avait été déjà faite, a été déjà consommée il y a 9 ans par l'intermédiaire d'un spectacle que Léo avait conceptualisé à l'époque.
Alors Léo, c'est Leonardo Garcia Larcón.
C'est ça. Et Leonardo avait fait un programme autour de Monteverdi et de Piazzolla. Un mélange assez improbable, mais qui fonctionnait formidablement bien sur scène. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec toute l'équipe de la Capella et Léo, et qui sont devenus une seconde famille pour moi. Beaucoup de musiciens qui sont passés par la Capella, on a fait des bouts de chemin ensemble de temps en temps. Et puis avec Léo, on a fait plein de choses, et on continue à en faire. Et on va en faire beaucoup pour les prochaines années aussi.
D'autant plus qu'il est en résidence à l'Opéra de Dijon et que vous êtes Dijonais depuis peu.
Exactement, je suis bourguignon d'adoption depuis maintenant 5 ans. Mais je suis auvergnat à la base, je suis né en Auvergne et j'ai passé une grande partie de ma vie à Clermont-Ferrand.
Votre monde musical au départ, c'est le monde du tango?
Oui, bien sûr. Puisque 90% de la littérature qui est écrite pour mon instrument est une littérature autour du tango argentin. Évidemment. Après, mon bandoneon est un instrument, donc du coup, ce n'est pas un tango. C'est vraiment, et on peut faire plein d'autres choses à côté. Effectivement, l'amener vers la musique baroque, c'est un point. On peut l'amener vers le jazz, les musiques improvisées. On peut l'amener vers la musique contemporaine. On peut l'insérer à chaque fois dans quelque chose qui n'est pas forcément son univers, mais c'est un instrument qui arrive toujours à trouver sa place comme accompagnateur ou alors comme une voix, comme quelque chose. Donc du coup, depuis des années, depuis l'apologie des crossovers dans les années 90, on voit le bandoneon apparaître régulièrement dans d'autres univers que celui du tango argentin.
Quand on sait qu'on doit enregistrer ce genre de conversation, on a quelques lectures. Qu'est-ce qui a pu amener un adolescent, on va pas dire un gamin, à s'intéresser au monde du tango tout seul, alors que c'est une musique qui passe pour être une musique des années 30, et lorsqu'il s'agit de danse, une danse qui concerne plus nos parents, ou encore peut-être quelques salons un peu feutrés, et peut-être même un peu snob?
Moi, je suis vraiment issu d'un vivier de musique populaire. Mon papa a fait sa carrière comme musicien de bal dans les bals musettes.
Oui, mais c'était les fiancés d'Auvergne, c'était Perle de Cristal.
Oui, effectivement, c'était une époque où le tango avait disparu, mais mon papa est d'une génération qui a connu encore un petit peu l'engouement autour du tango et du bandoneon. Donc du coup, il jouait du bandoneon, il joue du bandoneon et de la guitare. C'est comme ça que j'ai découvert l'instrument. Après, très rapidement, mon papa m'a fait écouter les disques d'Astor Piazzolla. Et pour moi, Piazzolla n'était pas une idole poussiéreuse. Au contraire, c'était quelque chose qui a amené le tango beaucoup plus loin. C'était pas ringard, il y avait une guitare électrique, il y avait quelque chose, il y avait une énergie.
Est-ce qu'il n'était pas un peu en dissidence par rapport à une certaine orthodoxie du tango?
Alors, si vous faites référence par rapport au tango que l'on trouvait dans les bals musettes à l'époque en France, oui, évidemment, bien sûr, rien à voir. Déjà, le tango qu'on trouvait dans les bals musettes autrefois en France était déjà à côté de la plaque par rapport à ce qui se faisait en Argentine. Mais Piazzolla, faut bien croire que Piazzolla est la convergence de tous les chemins qui ont été ouverts dans le tango argentin à partir des années 20. Il en fait la synthèse et en restitue quelque chose de totalement nouveau après lui. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Piazzolla, et Piazzolla était un enfant de Pugliese, de Troilo, de Salgan, des grands musiciens du tango des années 40 en Argentine. C'est ça qui est très intéressant dans la musique de Piazzolla, c'est qu'elle n'est jamais séparée du socle originel du tango. Elle s'insère totalement dans un continuum, et même si elle est très révolutionnaire par certains côtés, par certains aspects, ça reste quand même une musique qui est très 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 connotée, qui fonctionne comme de la musique de tango.
Avec les musiciens de l'Orchestre Dijon-Bourgogne, vous allez donner les saisons donc d'Astor Piazzolla. Alors, je serais tenté de dire un peu à chacun sa version, et d'ailleurs vous allez proposer un arrangement.
Je ne sais pas si c'est un arrangement, je penserais plutôt à une adaptation, puisque je me suis inspiré et je me suis basé sur les œuvres originales de Piazzolla de la fin des années 60, qui sont les œuvres pour quintette, c'est-à-dire pour guitare électrique, contrebasse, piano, violon, bandoneon. J'ai pris ces œuvres-là et je les ai adaptées pour quintette à cordes et bandoneon. Et c'est pas vraiment un arrangement pour moi, en tout cas. Ça a toujours été dans les orchestres de tango, il y a toujours eu des cordes. Et donc pour moi, cordes, bandoneon, il y a un socle qui est très très puissant par rapport au tango. Et l'orchestre à cordes offre des possibilités que malheureusement dans le tango argentin, on n'a pas toujours su utiliser. Et, même Piazzolla lui-même avait une écriture assez rustique au niveau des cordes parfois. Les saisons pour moi, c'est la fin des années 60, ce sont des pièces emblématiques, vraiment centrales dans l'œuvre de Piazzolla. Elles arrivent à un moment donné où Piazzolla s'est vraiment révélé dans son style, il s'est trouvé complètement, il fait une musique débarrassée de toute connotation, il fait du Piazzolla, et là on est dans du 100% Piazzolla, et c'est ça qui est très intéressant dans les saisons. En plus, elles n'ont pas été écrites d'une traite, donc du coup, on sent une petite évolution dans l'écriture. Par exemple, Verano Poltegno, l'arrangement que l'on donne là, est inspiré de la version qu'il a refaite dans les années en 79. C'est une pièce qui date de 65, et l'arrangement de 65 est encore autre chose. Et ces autres saisons, Inverno Poltegno, Otoño Poltegno, Primavera Poltegna, se suivent entre 69 et 70. Donc ce sont des pièces vraiment qui sont très très, elles sont pas loin, mais elles ont été espacées dans le temps, parce que Piazzolla les jouait sur scène, et petit à petit les mettait à son répertoire.
On a vu dans les concerts dans la région ces derniers mois, au sens large, associer les saisons de Piazzolla et les saisons de Vivaldi. Quel rapport à part le titre ?
Ben, vous aimez le chocolat, vous aimez les pâtes, vous faites des pâtes au chocolat. Je suis dur en disant ça, en donnant cette image-là, mais marier les deux n'a pas beaucoup de sens. C'est des discours complètement différents. La musique de Vivaldi est merveilleuse, elle est descriptive. Avec en plus elle est dans la forme avec la forme des quatre concertos, ce sont des œuvres vraiment superbes, mais vraiment magnifiques. Elles sont très descriptives, alors que Piazzolla c'est basé beaucoup plus sur le ressenti. Piazzolla il situe l'histoire à Buenos Aires, quand il dit Verano Poltegno, ça veut dire été Poltegno, c'est-à-dire de Buenos Aires. Poltegno désigne, c'est l'adjectif qui désigne Buenos Aires. Les habitants de Buenos Aires, on appelle ça les Porteños. Et donc du coup les actions sont pas au même endroit, c'est pas basé sur le même discours, sur le même ressenti. C'est un peu bizarre c'est bancal, c'est depuis ça vient depuis Gidon Kremer qui essaye absolument de marier les deux mondes en permanence sur ce truc là, ça ne fonctionne pas. Amener beaucoup plus Bartok vers Piazzolla, c'est naturel. Amener Shostakovich vers Bartok ou Stravinsky a beaucoup plus de sens, ou même il y a tellement d'autres compositeurs qui peuvent être mis en face Piazzolla, qui sont tellement plus intéressants que Vivaldi, on comprend pas forcément toujours. En plus, quand on marie pas les deux mondes, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment les faire se croiser et les faire se rencontrer, comme avec Léo, on avait fait entre Monteverdi et Piazzolla, où les deux mondes se côtoyaient pleinement.
Voilà qui est dit. William Sabatier, 5 musiciens de l'Orchestre Dijon-Bourgogne. C'est une des premières collaborations avec l'orchestre.
J'ai fait quelques concerts avec les solistes de l'orchestre en mois de février pour une petite série de concerts ici, mais c'était vraiment totalement, c'était pas des grands concerts comme ceux qu'on va donner l'année prochaine. L'année prochaine, il y a 3 concerts qui sont prévus. De mémoire, il y en a début janvier en région, Orchestre à cordes et bandoneon, où on rejouera les 4 saisons. En fait, on va fêter le centenaire d'Astor Piazzolla en 2021. Et puis après, on me retrouvera aussi avec l'orchestre. Alors là, cette fois-ci, au mois de mars, dans un programme autour des concertos de Piazzolla et des pièces concertantes de Piazzolla. Tres tangos, un concerto à Aconcagua, Adios Nonino, tout ça, toutes ces pièces qui ont été écrites de la main de Piazzolla pour orchestre.
En attendant donc ce dimanche soir, alors c'est parfois annoncé encore le samedi, mais finalement donc ce dimanche soir à partir de 20h, artiste en résistance, en résidence, alors sur les sites de l'Opéra de Dijon, alors sur le site internet opéra-dijon.fr, sur la page Facebook Maison ou encore sur la chaîne YouTube William Sabatier avec 5 musiciens de l'Orchestre Dijon-Bourgogne.